Radio Kapi.
À la une de l'actualité, la forte pluie tombée ce matin sur la capitale congolaise a causé d'importants dégâts humains et matériels dans plusieurs communes, notamment à Mongafula, Selimbao et Lemba. Inondations, effondrements et érosion inquiètent les autorités qui appellent à la vigilance. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Malgré la trêve annoncée pour ce 18 février à midi, les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et la rébellion AFC-M23 soutenue par les Rwandais au nord et au sud Kivu. Cette initiative diplomatique portée à Luanda par le président angolais João Lourenço aux côtés de plusieurs dirigeants africains peine à produire ses effets sur le terrain. La route nationale numéro 5, axe vital reliant notamment Fizi à Kalemi, se dégrade dangereusement. L'administrateur du territoire de Fizi au sud qui vous tire la sonnette d'alarme et appelle à une intervention urgente des autorités provinciales et nationales. Sami Kalonji Badibanga est l'invité de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après la forte pluie qui s'est abattue ce matin sur la ville de Kinshasa, plusieurs communes ont enregistré d'importants dégâts matériels et humains. De Mongafula à Selimbao, en passant par Lemba, les conséquences sont lourdes. Effondrement des murs, débordement des rivières, inondations et aggravation des érosions. Les autorités locales appellent à la prudence et évaluent encore l'ampleur des dégâts. Nancy Atambo nous en parle.
La pluie a causé des scènes de désolation dans plusieurs quartiers de la capitale. À Mongafula, deux personnes d'une même famille ont péri après l'écroulement de murs de leur habitation. On écoute le bourgmestre de Mongafula.
Il y a une famille, on peut y attraper la vie. Les murs étaient écroulés sur eux, alors les gens décédés.
À Selimbao, au quartier Mwanantukulu, la rivière Makelele est sortie de son lit, provoquant des inondations et les déplacements temporaires de plusieurs ménages. Des bourgmestres de Selimbao.
Le débordement de la rivière Makelele, d'autres quartiers comme Mbala, Adjadin, Kimbembe, dans la cité Camping, le quartier Molende, on a réalisé vraiment la progression de plusieurs érosions.
À Lemba, des têtes d'érosion se sont aggravées en Banza-Lemba, tandis que les quartiers Livoulou et Salongo sont touchés par des inondations. Le bourgmestre de Lemba.
Livoulou, c'est inondation, et Salongo, c'est inondation, et au niveau de Banza-Lemba, il y a vraiment un grand souci avec les érosions.
À Kisenso, plusieurs éboulements de terre ont également été signalés, notamment au quartier Mbuku, où un père et ses deux enfants ont perdu la vie. Les autorités poursuivent l'évaluation des dégâts et annoncent des mesures pour limiter les risques, alors que les fortes pluies ne font que commencer.
Suite Kivu, le coût des vies devient de plus en plus intenable à Shabunda, plus précisément dans la chefferie de Baliga. Les prix des produits de première nécessité galopent à cause de la rareté d'approvisionnement sur le marché. Les marchandises en provenance des villes de Bukavu et Kindu n'arrivent plus à Shabunda centre pour deux raisons. D'abord, à cause de l'insécurité et la multiplicité des barrières sur la route nationale numéro 2 Bukavu-Shabunda et ensuite le délabrement très avancé des infrastructures sur l'axe Kindu-Shabunda. La synergie des mouvements citoyens Forum des nationalistes appelle à la recherche d'une solution urgente pour sauver la population du territoire de Shabunda de cette situation. Jules Maguené, coordonnateur de la synergie au micro de Jean Kassami.
C'est depuis janvier-février ici que nous avons constaté la hausse vertigineuse des produits de première nécessité. Un verre qu'on achète à 500 francs congolais à Bukavu, à Baliga c'est à 5000 francs congolais. Un verre des haricots qu'on achète à 500 francs congolais, c'est à 5000 francs. Un poisson salé qu'on achète à 20 000 francs, c'est à 100 000 francs. Un litre de carburant qu'on achète à 3 500 francs congolais, c'est à 36 500 francs congolais. Un verre de sel qu'on achète à Bukavu à 400 francs, 500 francs, ici, c'est à 10 000 francs congolais. Ce qui a occasionné cette hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité dans les territoires de Shabunda, c'est la fermeture du tronçon routier Bural et Shabunda. D'un côté, c'est la FCM23 qui bloque. De l'autre côté, sont les FARDC et les Wazalindo qui bloquent. Il y a également l'impraticabilité dans les territoires de Shabunda. La route est quasi inexistante.
Sécurité à présent. Malgré un cessez-le-feu annoncé pour le 18 février à midi, les combats se poursuivent entre les forces armées de la RDC et la rébellion de l'AFC-M23 soutenue par le Rwanda au nord et au sud Kivu. Cette trêve avait été proposée le 11 février par l'Angola à l'issue d'une rencontre diplomatique à Luanda réunissant le président angolais João Lourenço, le médiateur togolais Faure Gnassingbé, le président congolais Félix Tshisekedi et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Mais sur le terrain, les armes continuent de parler. Les détails avec Martial Papimukeba.
Jusqu'à jeudi, des violents combats opposés dans les moyens et au plateau du territoire de Fizi au sud Kivu, les FRDC appuyés par les Wazalendo à la coalition Tuiraneo Ngumino Android alliée à l'AFC M23. Ces affrontements visent le contrôle de la zone stratégique 10.0 qui ouvre l'accès aux provinces du Tanganyika vers Kalemie et du Maniema vers Salamabila. Il est difficile de savoir qui contrôle la zone. Au nord Kivu, la situation reste tendue. Depuis tôt ce matin, l'AFC M23 affronte les Wazalendo du Pariko à Mitimingi, Kaunda et Mbiso dans les territoires de Masisi, tandis que des combats sont également rapportés dans certaines localités du territoire de Rutshuru. Si la RDC a annoncé son adhésion au cessez-le-feu proposé par l'Angola, l'AFC M23, elle, s'engageait pour un cessez-le-feu immédiat dans le cadre du processus de Doha. Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis, le commissariat provincial de la police nationale congolaise PNC au Nord Kivu, installé à Beni, chef-lieu provisoire de la province, a reçu ce jeudi du matériel informatique de la police de la MONUSCO UNPOL. La cérémonie s'est déroulée en présence de la chef de la police de la MONUSCO en mission de 2 jours à Beni. La police nationale congolaise s'est réjouie de ces dons qui, selon le commissaire provincial adjoint de la PNC au Nord Kivu, va lui permettre de mieux répondre aux besoins de la population. Le point avec Marc Marofimbo.
La dotation comprend des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ainsi que des imprimantes. Le commissaire provincial adjoint de la police au Nord Kivu, Sangui Ndolo Harley, s'est félicité de la bonne collaboration entre la PNC et la police de la MONUSCO.
Nous louons cette collaboration qui existe entre la police nationale congolaise et la police MONUSCO. Et c'est ce qui témoigne aujourd'hui qu'ils puissent penser à nous pour nous accorder cette donation. Que cette collaboration continue pour que nous puissions accomplir la mission qui nous est assignée.
De son côté, l'inspectrice générale Mamouna Oudrago, chef de la police de la MONUSCO, a rappelé l'importance de cette dotation.
Notre appui d'aujourd'hui en matériel informatique vise à renforcer les capacités de la police nationale congolaise pour la bonne exécution de leurs activités quotidiennes. Les personnels n'ont pas besoin seulement de formation. Il faudra également que cela soit accompagné par de l'équipement pour leur permettre souvent de mettre en œuvre la formation qu'ils ont reçue.
Rappelons que dans la région de Beni, la police de la MONUSCO appuie également la police nationale congolaise à travers plusieurs formations à vue de renforcer ses capacités opérationnelles et d'améliorer la protection des civils. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Pendant ces temps, à Ituri, des militaires FRDC ont été arrêtés pour avoir profané la paroisse catholique Saint-Joseph Travailleur des Boulets dans les territoires de Djougou. Dans une plainte adressée à l'autorité provinciale, le diocèse catholique de Bounia accuse ces militaires de pillage et de vandalisme au sein de l'église. Des actes qualifiés de violations graves du droit international humanitaire qui encadrent l'action des forces armées sanctionnées par les autorités provinciales, selon le porte-parole de l'armée à Ituri, Isaac Raymond.
Dans son message adressé au gouverneur des provinces, les diocèses catholiques de Bounia a fustigé les importants dégâts matériels causés au bâtiment de l'église, toiture endommagée, murs fissurés et vitres brisées. Ces dommages seraient survenus lors des affrontements entre les FARDC et la milice Convention pour la Révolution Populaire, la CRP. Les diocèses dénoncent également des actes de pillage attribués à certains militaires des FARDC après la reprise de la localité aux miliciens. Des menaces contre des membres du clergé auraient aussi été signalées. Face à ces faits, l'Église catholique exige que justice soit faite. Un extrait du message lu par les chanceliers du diocèse.
La paroisse Saint-Joseph des Boulets vient d'être le théâtre d'une profanation ciblée des éléments des FRDC qui contrôlent le centre des Boulets. La curie diocésaine s'en remet aux autorités provinciales et nationales pour que justice soit faite.
Saisi de ces cas présumés des violations des droits humains, le gouverneur des provinces a instruit l'arrestation des militaires impliqués. 5 d'entre eux ont déjà été transférés à l'auditorat militaire. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri.
L'administration militaire condamne avec la plus grande fermeté ces comportements indignes que le militaire impliqué. Ils devront répondre de leurs actes.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. La Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement remis ce jeudi ici à Kinshasa le fichier électoral de 2022 à l'Office national pour l'identification de la population ONIP. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabane, qui a présidé cette cérémonie, c'est en vue de la constitution du fichier général de la population. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Pour le vice-premier ministre de l'Intérieur, il s'agit d'une étape structurante importante. Derrière chaque donnée, il y a un citoyen, une famille, un droit à protéger et une sécurité à garantir, dit-il. De son côté, le directeur général de l'ONIP estime que ce fichier constituera une base technique importante pour moderniser l'état civil, améliorer la planification publique et renforcer la gouvernance administrative. Richard Ilunga.
L'ONIP s'engage à les traiter et à les compléter avec sa stratégie d'identification par stratification qui s'appuiera également sur la mutualisation avec d'autres institutions de la République.
Le président de la CENI a quant à lui parlé de la nécessité d'actualiser ce fichier. Denis Kadima.
Il est donc indispensable d'en retirer les personnes décédées, prendre en compte le changement de résidence et d'y intégrer les citoyens devenus majeurs après l'opération d'enrôlement de 2022.
Le vice-premier ministre Jacquemain Chabane a souligné que la consolidation de ce fichier est la colonne vertébrale des politiques publiques essentielles telles que la carte d'identité, la lutte contre la fraude et la criminalité, le contrôle des flux migratoires ainsi que la planification sanitaire et éducative.
Par ailleurs, la mutuelle de santé des enseignants est opérationnelle dans la province du Maniema depuis ce jeudi 19 février. C'est le gouverneur des provinces qui a officiellement lancé les activités de cette structure qui a pour objectif d'assurer les soins de santé de qualité aux enseignants et leurs dépendants. D'après le chef de l'exécutif provincial, pour qu'un enseignant dispense des enseignements de qualité, il doit lui-même être en bonne santé. Florence Kizalunga signe ce reportage depuis Kindu.
Les enseignants du Maniema sont très heureux de savoir qu'ils seront désormais pris en charge, eux et leurs dépendants, par la mutuelle de santé. Chembelo Pongo est leur porte-parole.
Vraiment, l'enseignant du Maniema est en pleine joie de recevoir aujourd'hui de la mutuelle de santé pour enseignants. Nous avons beaucoup attendu cette installation ici. Nous espérons à ce que l'enseignant du Maniema soit soigné gratuitement, qu'il ne puisse pas dépenser son maigre salaire.
Pour sa part, Marie-Faustine Beloko, secrétaire exécutive nationale, appelle les enseignants au sens de responsabilité.
En tant que votre propre œuvre, vous avez l'obligation de la protéger. Vous êtes des acteurs essentiels dans la réussite éducative, alliant rigueur, bienveillance et engagement. Qu'il vous plaise, chers enseignants, de vous conformer aux directives de sa coordination. Je vous invite à ne pas user de la fraude ou de tout autre subterfuge dont les prestations qu'offre votre mutuelle. Rappelez-vous que vous êtes aujourd'hui la seule corporation d'agents et fonctionnaires de l'État à disposer d'une mutuelle de santé que l'État subventionne.
Sachez que le Maniema est la 15e province opérationnelle sur la liste de la MSP. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Revenons au Nord Kivu où une vingtaine de femmes leaders sont désormais mieux outillées et mobilisées pour contribuer à la paix et à leur propre autonomisation dans cette région meurtrie par la guerre. Elles ont clôturé ce jeudi à Goma un atelier de deux jours organisé par l'ONG Voice of Kivu Women en collaboration avec la section genre de la MONUSCO. La formation visait à renforcer les capacités de ces leaders féminins en tant que futures formatrices. Le compte rendu de Bernard Denyanki.
À travers cette formation accélérée, les organisateurs entendaient préparer ces femmes à lancer une vaste campagne de sensibilisation auprès de leurs pères. C'est ce qu'explique Chabani David, coordonnateur de l'ONG Voice of Kivu Women.
Pour le moment, on considère la femme comme une cellule de la communauté dans la situation des guerres où nous nous retrouvons dans un territoire sous occupation. La femme est en train de subvenir aux besoins de la communauté et son autonomisation est beaucoup plus pour subvenir aux besoins de la population et la résilience communautaire.
Pour les participantes, cet atelier a été un véritable appel à l'action, comme le souligne Madame Charlène Iragi.
Ce cet atelier nous a amené plus à agir, Madame Nathalie. J'ai beaucoup aimé sa phrase que c'est lamenter si son sort, c'est du gaspillage. Elle nous a amené à prendre conscience qu'il faudra mieux une journée d'action qu'une année de lamentation.
Six grands thèmes ont été abordés durant les deux jours. La paix, la lutte contre les violences basées sur le genre, le leadership féminin, entre autres. Selon les organisateurs, cette formation prépare également les activités du mois de mars dédiées à la femme.
Actualité internationale.
La justice marocaine s'est prononcée ce jeudi 19 février à Rabat à l'issue du procès des 18 supporters sénégalais et d'un Français qui avait été arrêté lors des échauffourées survenues durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN entre le Maroc et le Sénégal. Tous sont condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme. Les avocats de la défense indiquent qu'ils vont faire appel.
L'invité.
Au sud Kivu, la route nationale numéro 5 qui va notamment des Fizi à Kalemie disparaît lentement mais sûrement. L'administrateur du territoire des Fizi s'en inquiète et alerte les autorités à tous les niveaux. Sami Kalundjiba Dibanga demande au gouvernement provincial et au ministère national des infrastructures d'accorder une attention particulière sur cette route qui constitue le poumon économique du territoire des Fizi. Sami Kalundjiba Dibanga s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur l'administrateur du territoire des Fizi, Sami Kalundjiba Dibanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, le territoire des Fizi renferme-t-il encore la même fraîcheur qu'on y a connue il y a quelques années?
Pendant plusieurs années, le territoire des Fizi, c'est un territoire martyr, un territoire sinistré. C'est depuis 1964 que ce territoire a connu plusieurs guerres qui ont retardé son développement et mis à mal le décollage socio-économique de ce beau territoire. Voilà qu'avec ces différentes guerres, Fizi a connu le pillage de ses ressources naturelles et aussi la destruction de sa faune et flore. Avec la prise de Bukavu, la prise de la ville d'Uvira, le territoire de Fizi a connu plusieurs difficultés socio-économiques voire même environnementales qui ont négativement impacté l'écosystème de ces territoires.
À quel degré la présence de groupes armés et de combats à répétition impacte-t-il l'environnement dans les territoires de Fizi?
Vous savez qu'à Fizi, nous avons la réserve d'Enganja. Nous avons aussi la forêt de Mabondo, communément appelée la forêt Ewabora dans les secteurs de Lulenge. Dans cette forêt, nous avons plusieurs groupes armés, notamment le Raid de Tabara, le FNL de Zabampema, qui y vivent et exploitent de l'or, coupent les bois rouges et aussi les autres bois pour la fabrication de braises. Cette situation a un impact négatif sur l'écosystème avec la dégradation de l'environnement. Avec la destruction de l'écosystème, l'abattage abusif des arbres sur toute l'étendue du territoire de Fizi, nous avons connu plusieurs catastrophes naturelles, notamment la plus grande catastrophe naturelle de Kassaba, où plusieurs victimes avaient été ensevelies dans la boue suite au glissement d'un grand morceau de terre. À Kassaba, nous avons enterré plus de 12 enfants d'une même famille à Kimino, suite aussi à l'écoulement des morceaux de terre près d'une école conventionnelle catholique en Kelecha. Nous avons connu les vents violents qui ont emporté des maisons à Mukera, à Kananda, voire même à Fizi centre. Nous avons connu la crue de rivière sur les littorales du lac Tanganyika, précisément à Kazimia, où les maisons avaient été emportées, et des personnes ensevelies, des champs détruits par cette situation. Et aussi, pour les gens qui traversent la rivière Mutambala vers le chef-lieu du secteur de Mutambala à Malinde, sur le pont, la rivière est en train de se rétrécir, parce que quand vous voyez la rivière à l'époque, c'était une grande rivière. Pour le moment, la rivière est en train de devenir beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce qu'en amont de cette rivière, il y a une exploitation. Pendant cette période de guerre, certains groupes armés trouvent une occasion d'exploiter le bois rouge le plus recherché, coupé, abattage abusif des arbres pour fabriquer des braises, commencer aussi à exploiter de l'or. Quand ils trouvent qu'un espace est occupé par un grand gisement d'or, ils sont obligés d'amener des machines qui doivent leur permettre d'abattre les arbres pour arriver à exploiter facilement de l'or dans notre territoire de Fizi.
Quelle voie de sortie serait-elle envisageable pour que FIS recouvre encore aujourd'hui la plénitude de son écosystème?
L'écosystème du territoire de FIS est en danger. La biodiversité est détruite. FIS était connu pour sa faune et sa flore très riche. Aujourd'hui, quand vous arrivez à FIS, la faune n'existe pas parce que les animaux que nous avions à l'époque qui faisaient la fierté du territoire de FIS, notamment l'hyène, les éléphants, n'existent plus parce qu'ils ne trouvent pas leur habitat naturel et qui est les arbres et les herbes. Toute cette forêt est détruite par les groupes armés. Voilà, aujourd'hui, les animaux n'existent pas à FIS. Et ceux qui existent vont plus loin dans les territoires voisins où ils peuvent facilement trouver la bonne herbe pour leur alimentation. Nous avons aussi la flore où on pouvait trouver de belles fleurs, des arbres médicinaux, mais pour le moment, ça n'existe pas.
Sami Badibanga, merci.
Ainsi s'achève ce journal mis en onde par Pierre Diassinois et Dédoné Nyangasawa Nyangasa, coordonné par Richard Junior Kamunga et Jude Mister Bilanda. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci.